Le débat du jour.
François Bernard.
Bonsoir, merci de nous accueillir à l'écoute de Radio France Internationale. Le mouvement des Gilets jaunes interpelle la classe politique dans son ensemble. La majorité tente de calmer les esprits avec des mesures de nature à favoriser le pouvoir d'achat. L'opposition veut élargir le front de la contestation et faire valoir ses orientations politiques propres. La gauche a d'ailleurs déposé hier une motion de censure qui n'avait aucune chance d'être adoptée, mais qui lui a permis de se mettre en avant et de jouer dans le Parlement les porte-voix de la colère populaire. Mais les Gilets jaunes ne revendiquent aucune appartenance et il est difficile pour les partis d'opposition de prendre à leur compte la contestation qui se manifeste depuis maintenant un mois. Alors, peut-elle néanmoins profiter de la crise pour affirmer son rôle, gagner en visibilité et en influence? On va en parler avec nos deux invités de ce soir. Je vous les présente tout de suite. Béatrice Gibelin est géographe, directrice de la revue Hérodote, auteure d'un livre qui s'appelle « Paradoxe français entre fierté nationale et hantise du déclin ». C'est paru chez Armand Collin. Bonsoir à vous, Béatrice Gibelin.
Bonsoir.
Et puis Philippe Brault est politologue, spécialiste de sociologie politique et enseignant-chercheur associé au CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po. Vous êtes, vous, l'auteur de Sociologie politique aux éditions LGDJ. Bonsoir à vous, Philippe Brault.
Bonsoir.
Et merci à tous les deux de nous rejoindre dans le studio de RFI. Alors, peut-être un mot pour commencer des manifestations d'aujourd'hui, avant de parler des différentes organisations politiques. Cette manifestation à l'appel de la CGT pour réclamer des hausses de salaire, comme les Gilets jaunes d'ailleurs. Quoi, récupération, convergence de vues, comment vous analysez cette démarche, Béatrice Gibelin?
Je pense que pour Martinez, de voir que les Gilets jaunes ont pu obtenir, après effectivement un mouvement inédit, que la classe politique a du mal, d'ailleurs que ce soit l'opposition ou la majorité, qui a vraiment du mal à saisir, en tout cas qui a surpris, et qu'on ait lâché ces fameux 100 euros qui ne sont pas effectivement une augmentation directe du SMIC, mais qui fera quand même 100 euros dans l'escarcelle des gens qui sont payés au SMIC, il doit se dire... ils sont quand même assez forts, parce que depuis le temps que lui, il essaye de mener un combat, tant d'ailleurs déjà sous Hollande qu'il a essayé de le mener sous Macron, pour des résultats qui ont quand même été des grands fiascos la plupart du temps, il doit avoir un petit peu la pilule amère en se disant, ben, j'essaye de prendre au fond le train en marche, et puis essayons de battre le fer, j'allais dire de la contestation, mais à mon avis, il se trompe, parce que c'est absolument autre chose qui se passe, et les Gilets jaunes n'attendent pas la CGT en soutien, absolument pas.
Enfin, alors, frustré, Philippe Internet, le numéro 1 de la CGT.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Mme Gibelin. C'est un mouvement social qui, en fait, a une composante jacquerie. Moi, j'insiste sur le mot jacquerie. Il y a des gens qui ne l'aiment pas beaucoup. Moi, je pense qu'ils ont tort. C'est-à-dire que c'est un mouvement d'inorganisés qui se présente comme étant ils se présentent comme étant des petits, des sans grade, des gens qui n'ont jamais la parole, des gens qui ne sont jamais écoutés.
Les invisibles.
Si bien que, pardon?
Les invisibles, comme ils
disent. Les invisibles, oui, c'est une très bonne expression. Si bien que, finalement, ils remettent en cause à la fois les partis politiques qui n'ont rien vu venir, hein, mais aussi les responsables syndicaux. Donc, les responsables syndicaux, notamment, mais dans une moindre mesure les partis politiques, sont dans une situation extrêmement délicate. Oui. Et on le voit bien avec Martinez, comme vous l'avez fort bien dit.
Mais est-ce que ces partis politiques peuvent porter les revendications des Gilets jaunes, ou est-ce qu'ils sont définitivement hors-jeu, selon vous ?
Non, ils ne sont pas définitivement hors-jeu, même ils vont reprendre la main lorsqu'il y aura des processus électoraux. Il y aura donc dans 5 mois.
Non, les élections européennes.
Les élections européennes, le 26 mai, je crois, 2019. Non, les partis politiques ne peuvent pas vraiment reprendre les revendications à leur compte. Pourquoi ? Parce que ce sont des revendications extrêmement contradictoires. Des revendications qui, souvent, ne sont pas vraiment sélectionnées, qui peuvent être complètement irréalistes. Hein. Et surtout, c'est parce que, dans ce mouvement social, il y a la composante, je le disais à l'instant, jacquerie, qui suppose que finalement, on légitime le recours à la violence. C'est-à-dire que, c'est pas une grosse violence, mais on va dire, si on fait pas de bruit, on nous entend pas. Hein. Il faut y aller. Il y a que la violence pour se faire écouter. Donc, comment voulez-vous que les gens qui ont une culture de la manifestation, avec service d'ordre, avec direction centrale, avec sélection des mots d'ordre, puissent se reconnaître là-dedans. Mmh. Pour eux, ils ne peuvent prendre le mouvement qu'avec des pincettes. Mmh. Bien sûr qu'il va y avoir des tentatives de récupération, mais dans les médias, c'est quasiment impossible.
Alors, Monsieur Brault parle de jacquerie. J'ai entendu parler aussi de carnaval. Vous préférez l'un ou l'autre, Béatrice Gibelin?
Je ne vois pas en quoi le terme de carnaval se justifie du tout dans un mouvement comme ça. Le carnaval, c'est quelque chose qui est bien plus organisé qu'on ne peut le penser.
À l'ancienne, ça durait six mois et tout le monde, sans hiérarchie du tout, s'exprimait comme il l'entendait.
Non, c'est pas du tout. Ça n'a rien à voir avec le terme de carnaval. On peut comprendre que les historiens n'aiment pas le terme de jacquerie parce que c'était quelque chose qui était limité sur un territoire. C'était d'une violence extrême et la répression était d'une violence encore largement plus forte encore. Je crois que c'est pour ça qu'ils n'aiment pas qu'on prenne le terme de jacquerie. Ce qui est intéressant, c'est effectivement la spontanéité avec laquelle ce mouvement est parti. Je ne dis pas qu'après il ne puisse pas être traversé par l'appui de militants plus organisés.
Ouais. Donc dans un second temps, les politiques pourraient reprendre la main, selon vous?
Non, je dis pas exactement ça. Je dis que des militants plus aguerris qui appartiennent à des mouvances politiques ou à des partis politiques, bon, pour ne pas les nommer, c'est la France insoumise d'un côté et c'est le Rassemblement national de l'autre, ont pu effectivement, j'allais dire, s'insérer, animer, débattre, donner des idées. Ça c'est assurément présent. Est-ce que pour autant ils vont, ces partis, récupérer la main? Les sondages d'aujourd'hui ne leur donne pas véritablement une percée, ni pour la France insoumise, ni même pour le Rassemblement national. Mmh. Ce que je trouve, pour ma part, un peu plus surprenant, si vous voulez. Parce que j'aurais tendance à dire que dans ce mouvement des Gilets jaunes, pour moi, c'est absolument pas un mouvement révolutionnaire. Absolument pas. C'est une révolte sociale et populaire, voilà. C'est une chose. Mais la révolte ne veut pas dire révolution. Et je pense que il y a quelque chose, un peu de restauration. Vous avez dit tout à l'heure, c'est un mouvement qui se perçoit, on parle de la classe petite-moyenne, hein, quand on parle de classe moyenne, le bas de la classe moyenne, et c'est un mouvement qui est un mouvement très français de souche, hein, dans sa grande majorité. C'est pas un mouvement qui fait bouger dans les banlieues du tout, c'est un mouvement très très franco-français, je dirais, pour le moment.
Alors, Philippe Brault, formuler des propositions, on l'évoquait tout à l'heure, s'inscrire dans un processus démocratique, ça se fera forcément avec des militants plus aguerris, comme le dit Béatrice Gibelin?
Pas forcément. Je pense que...
On va voir peut-être une nouvelle classe politique, une nouvelle...
Moi, j'y crois pas.
Sûrement pas. Sûrement pas. Ça, sûrement pas. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont un rapport à la politique extrêmement négatif. Ils ont un rapport à la représentation extrêmement négatif aussi. On n'est pas écouté, on ne nous entend pas, donc on fait du bruit, on casse tout éventuellement. Pas tous, hein, mais il y a une dynamique quand même de la violence qui va contribuer à hystériser, si j'ose dire, les comportements. Mmh. C'est-à-dire que quand on dit, ah bah après tout, il y a que la violence pour se faire entendre, mais lorsqu'on est ensuite affronté à une violence de rue, eh bien, il y a des tas de braves gens, des tas de gens ordinaires qui se mettent à devenir violents. Hein. Donc, c'est pas récupérable directement par les partis politiques. Moi, ce qui me frappe, c'est un sondage qui vient de sortir d'ailleurs aujourd'hui, de BVA, qui crédite Marine Le Pen, une liste Marine Le Pen, de 21%, hein, devant 20% pour LRM. 21%, quand vous y réfléchissez, c'est même pas le score qu'elle a fait à la présidentielle, hein, puisqu'elle a fait un peu plus, elle a fait 22 hein, ou 23. Donc...
Ça favorise une montée du Front National, c'est ça que vous voulez dire?
Non, justement, ça.
Le mouvement national.
Non, justement. Ça veut dire que s'il y a 20% de gens qui veulent encore voter pour Marine Le Pen, ça veut dire que le mouvement des Gilets jaunes ne lui apporte rien de plus. Soit parce que ce sont déjà des gens qui votaient pour elle, hein, il y en a quand même pas mal, effectivement, soit parce que ce sont des gens qui ne voteront pas. Hein, soit parce que il y en a aussi qui voteront éventuellement pour la gauche ou pour l'extrême gauche, quoi. Bon, voilà. Donc la récupération, Moi, je crois qu'elle n'est pas possible. Ce qui va se passer, c'est que une jacquerie, moi, je tiens au terme jacquerie, mais jacquerie 21e siècle, hein. C'est-à-dire pas de leader, mais une contagion nationale, parce que avec les réseaux sociaux, maintenant, avec Internet, tout ça, ça diffuse très, très vite. On n'est pas dans une société fragmentée, c'était paysanne. Il y a pas, les jacqueries, c'était paysans, justement, à une certaine époque. Pourquoi? Parce que c'était que les paysans qui étaient en bas de l'échelle. Aujourd'hui, il y a bien d'autres catégories qui sont en bas de l'échelle. Donc, c'est une jacquerie, moi, à mon avis, d'automobiliste, c'est une jacquerie fiscale, c'est une jacquerie de petit patron, etc., etc. Moi, je n'aime pas du tout l'expression que j'entends trop souvent, la classe moyenne. Ça n'existe pas, la classe moyenne. Bon. Il y a des classes moyennes et elles sont pas là. Alors, elles sont pas dans le mouvement.
La question se poursuit. Comment concilier ce rejet de la politique que vous constatez tous les deux et la nécessité de trouver des interlocuteurs pour permettre donc des négociations, des discussions?
C'est un peu contradictoire parce que ce qu'ils font là, d'une certaine façon, c'est de la politique.
Oui.
C'est pas, ils étaient dans le rejet des partis, parce que de toute façon, qu'on vote gauche ou qu'on vote droite, notre quotidien ne change pas, donc on n'est pas entendu, et ils faisaient quand même partie beaucoup, du grand camp des abstentionnistes, pour beaucoup d'entre eux. On n'y croit plus, on se fait jamais entendre. Je pense qu'il faut pas oublier ce qu'a été vraiment la rupture de la non-prise en compte, dans la durée, du résultat du référendum pour la Constitution européenne de 2005, où c'était à plus de 55% des Français avaient dit non, et où Nicolas Sarkozy est passé par derrière, et au fond, oui, parce que ça a été le traité de Lisbonne, et pour les gens, je pense que ça a été vraiment le sentiment qu'ils ne comptaient pas. Voilà, qu'on les prenait pour des imbéciles, on les consultait, mais comme ils donnaient pas la bonne réponse, on ne les écoutait plus. Donc ça, je crois que c'est très important. Donc que certains d'entre eux et pris de goût à la politique. On parle même qu'ils feraient une liste aux européennes. Je n'y crois pas un instant. Que comme ils ne sont absolument pas vraiment d'accord entre eux, ils sont d'accord dans le contre pour le moment. Mais après, quand il faudra faire un programme, quand il faudra avoir des leaders, quand il faudra faire des listes, à tous les coups, ça ne fonctionnera pas.
Ça serait une très mauvaise nouvelle et pour le Front National, enfin le Rassemblement National,
bien sûr.
Et pour LFI. Ça ne peut que leur pomper des voix.
Exactement.
Donc, si je vous comprends bien, il n'y a pas de nouvelle forme de représentation politique qui est en train d'émerger. Par contre, il y a beaucoup de revendications qui sont portées par les partis déjà constitués, à gauche notamment, la justice sociale, la réforme du système fiscal, tout ça reste des objectifs à gauche, Philippe Brault.
Ce ne sont pas des objectifs, ce sont des légitimations que se donnent les gens les gilets jaunes. Les gilets jaunes, ils veulent que le prix du carburant à la pompe, il soit pas augmenté. Ils voudraient bien, ceux qui sont des petits patrons, payer moins d'impôts. Le ras-le-bol fiscal, ça vient de chez eux. Ils voudraient bien que le SMIC soit plus important. Je me souviens de cette mère de famille, gilet jaune, qui a dit, vous rendez compte, moi je suis pauvre, mon pouvoir d'achat s'est étiolé, a diminué beaucoup. Pourquoi? Eh bien, j'ai 1600 euros par mois, c'est ce qu'elle a dit, hein, 1600 euros par mois, et maintenant je ne peux plus aller au restaurant avec mes enfants. Et c'est là que on voit que être pauvre, c'est quoi exactement? C'est quand vous êtes soumis à une pression consumériste qui est extrêmement effrayante, hein, quand on y réfléchit, notamment dans cette période. Effectivement, si on ne peut pas payer le dernier iPhone à mon garçon qui a 14 ans ou 13 ans et qui voit que ses petits copains, ils en ont un, on se dit, mais mon pouvoir d'achat est insuffisant. Et on va même dire, il a diminué. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas d'iPhone. Enfin, aussi peu, quoi. C'est complexe, ces trucs.
Oui, je pense que c'est pas si simple que ça pour la gauche, par exemple, de récupérer. D'abord parce que pour ces gens-là, la gauche n'a pas répondu. Ça fait longtemps que on sent un peu cette grogne. Elle est pas récente. Bon, on dit La République en Marche qu'elle date de 40 ans. Bon, c'est peut-être pas depuis 40 ans, mais c'est vrai qu'on la sent quand même depuis un moment. C'est vrai que vivre dans certains endroits avec 1400, 1500 euros ou 1600, c'est pas gras et que c'est un peu difficile et que de compter chaque fois, c'est difficile. Mais la gauche n'a pas apporté de réponse face à ça. Donc moi, je vois mal comment elle pourrait aujourd'hui pouvoir récupérer ces voix-là en portant ce discours-là. Elle a tenu le discours de la justice sociale et de la justice fiscale. Elle l'a tenu, assurément.
Mais elle l'a pas mise en application.
Mais elle l'a pas suffisamment, ou peut-être que c'était pas possible. Je porte pas de jugement. Mais pour ces gens, de toute façon, ils n'ont pas eu la réponse. Donc, pourquoi les croire plus cette fois-ci qu'on ne les a crus avant? Et de même, pour beaucoup d'entre eux, ils ne veulent pas de la révolution demain. C'est faux. On peut pas, pour certains d'entre eux, avoir envie d'avoir Pierre de Villiers comme chef d'État et être pour la révolution. Enfin, il y a là des contradictions
alors,
qui sont énormes.
Puisque vous parlez des individus, des représentants politiques, on a vu en Italie le destin de Matteo Renzi passer comme Emmanuel Macron du statut d'homme providentiel à celui d'homme à abattre. Et l'avènement en conséquence, d'ailleurs, des partis populistes qui sont alliés pour la circonstance. Est-ce qu'un scénario identique peut se passer en France? Alors, j'interroge Philippe Roche, je reviens vers vous, Béatrice Gibelin, parce que vous connaissez bien le problème aussi.
Moi, je pense que vous avez raison de souligner la dimension européenne, et je dirais même la dimension démocratie libérale. Elles sont toutes affrontées à cela. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est que l'élévation quand même très sensible du niveau de vie, du pouvoir d'achat de tout le monde, s'accompagne d'une aggravation des inégalités. Mais pourquoi? Parce que c'est la logique du système libéral. Le système libéral, l'ouverture des frontières, la compétition européenne puis mondiale, c'est ça ce qui stimule la croissance économique, et en même temps, ce qui inévitablement creuse des écarts. En d'autres termes, les petites gens, pour parler un petit peu de façon outrageusement paternaliste, se rendent bien compte quand même que leur niveau de vie a augmenté par rapport à celui de leur grand-père, mais c'est un problème de dignité aussi. Ils voient que les patrons, eux, ils gagnent, ils peuvent dépenser. On a fait ce calcul-là. Je crois que c'est aux États-Unis, il y a un des très grands patrons peut dépenser en 24 heures ce qu'un ouvrier va gagner en 120 ou 140 ans.
Il y en a chez nous aussi. Il y en a chez nous aussi. Alors, je prolonge ma question, Béatrice Gibelin.
Le calcul a été fait aux
États-Unis. Dans les enquêtes, il y a peu de manifestants finalement qui mentionnent la question des immigrés. Est-ce que cela disqualifie d'une certaine manière l'analyse selon laquelle l'extrême droite serait à la manœuvre ou en tout cas essaierait de tirer profit de l'événement?
Franchement, je ne pense, c'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'il n'y a pas le problème. Il suffirait qu'on gratte un peu, ou qu'il y ait quelques tensions en banlieue. Je ne suis pas sûre que c'est la population des Gilets jaunes se sentirait forcément très solidaire des jeunes immigrés. Ce que je disais, pour moi, il y a quelque chose d'un mouvement un peu de restauration plus que d'un mouvement révolutionnaire dans cette affaire-là. Oui. Donc, je pense que pour le moment, ils sont centrés sur leurs propres préoccupations. Et puis, vous savez, c'est un mouvement qui est aussi beaucoup dans des petites villes, dans des villes moyennes ou petites villes, ou dans un petit bourg ruraux même, je vais dire, où la présence d'une immigration massive est pas forcément là. Elle peut être là, si les manifestations dans le Var, dans le Vaucluse, dans les Bouches-du-Rhône, dans l'Hérault, dans le Gard, enfin, on peut citer tout ça, ou les environs de Lyon, ou le nord de la France, enfin, voilà. Mais ce qui est quand même symptomatique, c'est que les banlieues bougent pas. Du tout.
Ah, oui.
Ben oui, le périurbain bouge. Mais ce qu'on appelle la banlieue, puisque maintenant l'image de la banlieue, c'est l'image de cités, de grands ensembles et d'une population immigrée, à tort de mon point de vue, puisque plus de la moitié des Français vivent en banlieue. Mais c'est ça, quand on dit banlieue, c'est l'image qu'on a aujourd'hui.
Alors, on ne peut pas en dire plus, puisque l'émission est terminée. Merci à tous les deux, Béatrice Gibelin. Je rappelle le titre de votre livre, Paradoxe français entre fierté nationale et hantise du déclin, c'est cher Mancolin. Et Philippe Brault, le vôtre s'appelle Sociologie politique. C'est aux éditions LGDJ. Merci à Déborah Lepage qui a préparé cette émission, à Claude Battista qui la réalise. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous restez à l'écoute de Radio France Internationale. Un nouveau journal dans quelques secondes.